VOA Afrique.
Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes. Le monde aujourd'hui, édition du vendredi 10 février 2017. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia et Anne Albertson. La décision tant attendue de la Cour d'appel de San Francisco sur le décret migratoire du président Donald Trump est tombée hier soir. Pas de changement, la suspension du décret est maintenue.
Et nous ouvrons sans tarder sur ce développement. Trois juges fédéraux de la Cour d'appel de San Francisco ont donc refusé à l'unanimité de réinstaurer le décret du président Donald Trump interdisant temporairement aux ressortissants de 7 pays à majorité musulmane d'entrer aux États-Unis. L'administration Trump avait demandé à cette Cour d'annuler l'ordonnance de suspension prise en première instance et en urgence le 3 février dernier par le juge fédéral James Robart de Seattle dans l'État de Washington. Les précisions de Jean-Roger Bion.
Pour les trois juges, le gouvernement n'a pas démontré que son appel a des chances de succès. Quant au fond, il n'a pas non plus démontré que maintenir la suspension du décret causerait de graves atteintes à la sécurité des États-Unis. Rendez-vous au tribunal, la sécurité de notre nation est en jeu, a tweeté le président Trump peu de temps après la publication de la décision de la Cour d'appel. S'adressant à des journalistes, il s'est plaint plus tard de ce qu'il a appelé une décision politique en assurant que son administration finira par avoir gain de cause très facilement. Pour sa part, le ministre de la Justice de l'État de Washington, Bob Ferguson, qui a plaidé contre le décret migratoire, a déclaré lors d'une conférence de presse à Seattle « Nous sommes une nation de lois et ces lois s'appliquent à tout le monde dans le pays et cela inclut le président des États-Unis. À mon avis, l'avenir de la Constitution est en jeu. On s'attend maintenant à ce que ce cas finisse devant les juges de la Cour suprême des États-Unis. »
J'ai demandé au professeur Edgar Colley de l'Université de Monterey en Californie ce que le maintien de la suspension du décret migratoire du président Trump par la Cour d'appel de San Francisco signifiait pour ceux qui veulent se rendre aux États-Unis.
Pour le moment, c'est vraiment effrayant parce qu'il y a des gens qui disent « Est-ce que je serai bloqué ?» J'arrive aux États-Unis, je veux sortir et revenir, je suis bloqué. Je suis à l'intérieur des États-Unis, puis sortir et revenir, je suis bloqué. Alors, il y a une incertitude puisque M. Trump et son administration ne vont pas, de mon point de vue, accepter la décision de la Cour d'appel. Donc, cela veut dire que nous allons encore traîner la question pendant quelques semaines. Et c'est vraiment une incertitude qui est tellement stressante pour les gens qui veulent sortir ou entrer, surtout des gens qui porteraient des noms qui ne se ressemblaient pas aux noms anglo-saxons.
Le fait est que depuis que la Cour de Washington a pris la décision de suspendre le décret, le département d'État a permis aux gens qui ont des visas de continuer à venir.
Effectivement, parce que du moment que ce décret a été bloqué, les gens qui avaient déjà des visas, ceux qui étaient ici détenteurs de la carte verte, on a réinstallé leur droit de sortir et d'entrer. Mais ceci quand même pose une question de fond. Puisqu'il y a une incertitude qui est encore là, qu'est-ce qui va se passer? Parce que immédiatement après la décision de la Cour d'appel de San Francisco, M. Trump a sorti un tweet qui disait « Je vous retrouve au niveau de la Cour ». Donc j'ai l'impression que cela va continuer, il ne va pas accepter la décision de la Cour d'appel. Donc pour les gens qui veulent partir ou revenir, cette incertitude est quand même assez difficile à supporter.
Mais sur le plan juridique, rien ne les empêche de partir ou de revenir.
Oui, pour le moment, rien. Mais dans le long terme, qu'est-ce qui va se passer? Aujourd'hui, bien entendu, avec le blocage de la Cour d'appel, cela veut dire que ceux qui ont des documents légaux peuvent partir, peuvent entrer dans ce pays comme ils l'entendent. Maintenant, la perspective d'une lutte juridique dans le futur, c'est cela l'incertitude.
Le professeur Edgar Colley de l'Université de Monterey en Californie. J'ai joint aussi l'ancien secrétaire d'État adjoint américain aux affaires africaines, Herman Cohen, pour lui demander ce que la décision de la Cour d'appel de San Francisco signifiait pour la séparation des pouvoirs aux États-Unis, particulièrement dans ce cas-ci entre l'exécutif et le judiciaire. Monsieur Cohen réagit d'abord à la décision.
Je ne suis pas surpris. Je crois que l'ordre que président Trump a signé n'était pas réfléchi très bien
parce que ça a fait beaucoup de tort aux gens qui étaient déjà aux États-Unis, qui avaient des visas, qui avaient l'autorisation d'être étudiants ou résidents ou hommes d'affaires, etc. Ils ont tout bloqué sans penser à ces difficultés. Le tribunal n'a pas décidé qu'il a tort. Ils ont décidé seulement que ça mérite une revue devant un tribunal.
Mais quand même, le tribunal a rejeté l'argument selon lequel la fermeture temporaire des frontières était une prérogative absolue du président des États-Unis.
C'est vrai.
Alors, qu'est-ce à dire pour ce qui est des rapports entre l'exécutif et le judiciaire selon la Constitution américaine?
Notre Constitution a établi 3 branches et chaque branche a des pouvoirs, c'est-à-dire la présidence, l'administration, les 2 chambres du Parlement et le judiciaire. Et chacun a des pouvoirs et ça a bien marché depuis 250 ans maintenant.
Les déclarations du président comme quoi les juges n'avaient qu'à le laisser faire parce qu'il y avait des raisons d'intérêt supérieur de la nation, la sécurité, ça n'a pas été retenu.
Non, parce que les avocats pour le président ont dit « Vous n'avez pas le droit de passer ça en revue. » Et c'est pas vrai, parce qu'il y a des gens qui ont porté plainte, qui sont allés devant le tribunal pour dire que ce que le président a fait n'est pas bien. Il a violé la Constitution, c'est-à-dire l'État de Washington, l'État de Minnesota, qui sont très importants parce que leurs gens ont souffert, ont beaucoup souffert à cause de cet ordre. Et aussi, il ne faut pas oublier que pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand nous étions en guerre contre le Japon et l'Allemagne, le président Roosevelt a signé un ordre de mettre tous les Américains d'origine japonaise dans les camps de concentration. Il ne faut jamais répéter ça.
Donc vous faites allusion à un interdit concernant les musulmans?
Un peu, oui. Un peu. Ils disent que les musulmans ne sont pas visés. Mais ce qu'on fait à l'étranger, c'est-à-dire interdire de donner des visas aux gens, ça, le président a le droit de faire ça. Mais ce qu'il a fait dans son ordre, il a fait beaucoup de tort aux gens qui étaient déjà ici, qui avaient des visas ou qui étaient dans les avions parce qu'ils avaient déjà eu leur autorisation de venir. C'est là-dedans que le président a beaucoup tort.
C'était M. Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint américain aux affaires africaines.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'actualité en Afrique maintenant. En République démocratique du Congo, arrestation du leader d'une secte à la base des tueries répétées à Butembo. L'homme, surnommé le boucher de Butembo, a été arrêté avec 2 de ses acolytes, Eddie Isango.
La secte appelée les Corps du Christ est accusée d'être à la base de certaines des tueries dans les grands nord de la province du Nord Kivu. L'homme arrêté, David Maranata, en est le chef. Il a été appréhendé avec 2 de ses acolytes, selon le porte-parole des opérations des FRDC dans la région, le lieutenant Mac Azukai, joint par VOA Afrique. C'est lui qui, selon le lieutenant Azukai, est le présumé auteur de la décapitation l'année dernière des plusieurs policiers dans les quartiers Fourou, dans la banlieue de Butembo. Le boucher de Butembo, comme il est surnommé, avait également, selon l'armée, organisé une expédition militaire contre des positions de la MONUSCO et avait tué un casque bleu et un militaire congolais. Comme les ADF et les Mai Mai, la secte est accusée de tuer ses victimes à la machette et autres armes blanches.
L'Union européenne a annoncé hier l'octroi d'une aide d'un montant de 225 millions d'euros à la Gambie, pays quasiment en faillite selon les termes même de son nouveau président Adama Barrow. Claire Morin-Gibourg.
L'annonce a été faite lors de la signature à Banjul d'une série de contrats d'aide par le commissaire européen à la coopération internationale et au développement, Niven Mimika. L'Union européenne avait gelé son aide à la Gambie en décembre 2014 en raison de la mauvaise situation des droits de l'homme dans ce pays. Neven Mimika a salué le changement pacifique et démocratique représenté par l'accession au pouvoir d'Adama Barrow le 1er décembre dernier. Il a assuré que l'Union européenne était pleinement engagée à la coopération avec le président Barrow et son gouvernement. Banjul va ainsi bénéficier d'une aide financière immédiate de 75 millions d'euros pour combattre l'insécurité alimentaire, le chômage et les difficiles conditions dues à l'état du réseau routier. Un second programme d'aide de 150 millions d'euros est attendu lors d'une prochaine visite d'une délégation européenne en Gambie.
En Afrique du Sud, les députés du parti d'opposition des combattants pour la liberté économique ont échangé des coups avec des agents de sécurité qui les expulsaient jeudi du Parlement après qu'ils eurent tenté d'empêcher le président Jacob Zuma de prononcer son discours annuel à la nation. Les députés ont perturbé pendant plus d'une heure le discours de M. Zuma, estimant que le président n'était pas légitime pour s'exprimer avant d'être sorti dans le chaos par une trentaine d'agents de sécurité du Parlement.
Et pour terminer, le nord-est des États-Unis a subi d'importantes chutes de neige jeudi, obligeant les écoles à fermer et les compagnies aériennes à annuler des milliers de vols. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Morgane Guiriec.
Le salaire minimum à 244 euros, c'est pour bientôt en Afrique du Sud. Les syndicats et le gouvernement sont parvenus à un accord. La mesure devrait entrer en vigueur en mai 2018, d'après les autorités citées par Jeune Afrique. L'objectif est de relancer la croissance du pays et de limiter les grandes grèves, notamment dans le secteur minier. Les tensions entre le gouvernement et les géants du secteur minier sud-africain sont d'ailleurs palpables durant la conférence mondiale Mining Indaba au Cap. Face aux régulations fluctuantes et aux fermetures de sites que les compagnies minières jugent arbitraires, elles ont affiché leur ras-le-bol au cours de la rencontre de cette semaine. Les perspectives d'investissement sont vraiment négatives, affirme le groupe Sinbanier, interrogé par l'AFP. Compagnie qui poursuit le gouvernement sud-africain pour la fermeture d'une de ses mines de platine après un accident mortel en septembre. Et enfin, chasser les communautés locales de leurs terres peut s'avérer coûteux pour les investisseurs en raison des grèves et violences que déclenchent les évictions. Telle est l'estimation réalisée par Rights and Resources Initiative et TMP Systems. Ces militants rappellent que les expulsions forcées par les sociétés étrangères représentent 2/3 des litiges de propriété foncière en Afrique.
À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Le Cameroun et l'Égypte bondissent au classement FIFA.
Les nations africaines qui se sont illustrées lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2017 et notamment les deux finalistes, le Cameroun et l'Égypte, ont logiquement bondi au classement FIFA. Le top 10 reste inchangé, mais l'Égypte, finaliste malheureux, est devenue la nation africaine la mieux classée, 23e, alors que le Cameroun, vainqueur du tournoi, a bondi de 29 places et se retrouve désormais 33e de longueur derrière le Sénégal. Sénégal, 31e. La Côte d'Ivoire, en revanche, qui s'est faite sortir dès le premier tour, malgré son statut de tenante du titre, a dégringolé de 13 places et occupe désormais la 47e place. L'Algérie, également sortie dès le premier tour, a chuté de 11 places et occupe désormais la 50e place du classement.
Le TP Mazembe en préparation.
Afin de préparer la finale de la Supercoupe de la CAF, qui l'opposera au Mamelodi Sundowns le 18 février prochain à Pretoria, le tout-puissant Mazembe va disputer 3 matchs amicaux face à des équipes du Katanga. Les vainqueurs de la Coupe de la Confédération affronteront aujourd'hui l'AS New Soldier, demain Lubumbashi Sport et mardi la Jeunesse Sportive Groupe Bazano. Ces trois rencontres auront lieu sur la pelouse de Kamalondo.
L'UEFA veut se tailler la part du lion à la Coupe du Monde 2026.
Oui, l'instance du football européen a pris acte de l'élargissement du Mondial 2026 à 48 équipes et réclame maintenant la présence de 16 équipes européennes, une dans chaque poule. C'est ce qu'a déclaré hier Alexander Seferin, le président de l'UEFA. Selon une source de la FIFA, l'Europe passerait de 13 à 16 places, l'Afrique principale bénéficiaire de 5 à 9 places et l'Amérique latine obtiendrait entre 4,5 et 6 places et demie. La différence viendrait en fait d'un barragiste.
Par ailleurs, l'UEFA veut limiter à 3 le nombre de mandats de ses dirigeants.
Annonce également du président Alexander Seferin hier. Cette réforme doit maintenant être validée lors du 41e congrès de l'UEFA. Ce sera le 5 avril à Helsinki en Finlande. Jusqu'ici, la seule limitation pour diriger l'UEFA était celle de l'âge. Il ne fallait pas excéder 70 ans révolus. Allez Idrissa, on vous laisse donner quelques résultats de NBA, le championnat de basket nord-américain la nuit dernière.
Houston-Charlotte 107-95, Philadelphia-Orlando 112-111, Cleveland-Oklahoma City 109-118 et Utah-Dallas 105-112.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Au micro, Idrissa Seydoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En Centrafrique, au moins 20 combattants ont été tués dans la localité aurifère de Ndassima, à une quarantaine de kilomètres de Bambari. Des affrontements ont éclaté samedi entre deux factions rivales de l'ex-rébellion Séléka. Les effets sur les populations déjà meurtries par plusieurs années de tueries et de massacres. Eh bien, Idriss Fall a joint Yves Van Loo, représentant du CICR à Bambari.
Il y a énormément de mouvements de population. La ville de Bakala s'est presque entièrement vidée. Pas mal de gens qui fuient sur l'axe de Ndassima. Il y a pas mal de gens qui sont partis également. Enfin, Ndassima moins, parce que Ndassima est un carré minier. Mais la ville de Djoubissi, qui se trouve en amont, s'est vidée. Et alors, sur l'axe en Haute-Coteau, sur l'axe entre Bria et Ipi, il y a eu également pas mal de mouvements de population. Les gens ont peur et fuient les combats. D'autant plus qu'il y a une petite dimension ethnique qui risque toujours de pointer. Les groupes sont quand même stéréotypés. Il y a des gens qui fuient parce qu'ils ont peur d'être pris pour cible.
Mais en fait, ces deux groupes qui se battent sont majoritairement musulmans, notamment le groupe de Noureddin Adams et Ndaras Kiepel.
Oui, ce sont des groupes de musulmans. Ça, c'est ce qu'ils ont en commun. Mais après, les groupes sont identifiés par rapport à des ethnies qui sont différentes. Même si les groupes ne sont pas du tout homogènes, il y a une certaine importance qui est perçue, à tort ou à raison, mais qui est perçue comme telle.
Mais on croyait que la paix était revenue en Centrafrique avec les élections. Vous qui êtes à Bambari, est-ce que vous avez ce sentiment de retour de la paix alors?
Alors c'est paradoxalement, il y a beaucoup de signes en fait qui continuent à montrer qu'il y a la paix. Il y a effectivement cet affrontement, il y a une tâche sur la paix. Depuis les élections, oui, on voyait quand même qu'il y avait pas mal de gens qui continuaient à rentrer chez eux. On voit quand même des autorités de l'État qui sont beaucoup plus présentes et qui sont assez actives. Il existe des cadres de concertation, par exemple, qui ont été mis en place par les préfets pour discuter avec les ONG et le monde humanitaire en général pour aider à la reconstruction. On a également certains ministères décentralisés qui sont arrivés et qui collaborent assez bien. Il y a certains indicateurs qui étaient plutôt optimistes. Mais voilà, il y a encore de temps en temps des conflits intercommunautaires. Et puis maintenant, il y a cet affrontement assez violent entre groupes armés. Même malgré ces affrontements, les mouvements n'ont pas été encore suspendus. Donc il y a pas mal d'activités encore humanitaires. Aujourd'hui et demain, nous sommes encore occupés à faire les distributions de matériel pour les déplacés, mais également pour les gens qui sont retournés chez eux. Et on vient encore de lancer la construction de puits dans des villages ici aux alentours pour aider les retournés à reprendre une vie normale chez eux.
Yves Van Loo, le représentant du CICR à Bambari, en République centrafricaine.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Bangui, c'est sur 101.7 FM en République centrafricaine.
Au Zimbabwe, le pasteur Evan Mawarire, l'un des chefs de file de la fronde anti-Mugabe, a recouvré sa liberté hier. La veille, la Haute Cour avait ordonné sa libération contre une caution de $300, en réclamant au prévenu toutefois de remettre son passeport à la justice et de se présenter deux fois par semaine à la police. Jacques Aristide.
Des journalistes regroupés à l'extérieur de la prison de haute sécurité de Chikurubi demandent au pasteur Mawarire de sortir du véhicule qui le transporte pour répondre à leurs questions. L'activiste refuse, craignant pour sa sécurité. Mais plus tard, il a eu ceci à dire.
Cela fait 9 jours maintenant que je ne suis pas rentré à la maison. Je voudrais bien voir ma famille, je voudrais me reposer, réfléchir. Mes avocats ont travaillé dur pour arriver à ce résultat. J'en suis reconnaissant. Je suis heureux de rentrer chez moi et heureux d'être un homme libre au moins. Je veux passer des bons moments au Zimbabwe. Non, je ne suis pas démoralisé, pas du tout. J'ai l'esprit tranquille.
Are you demoralized?
No, not at all. I'm happy. My spirits are up.
Parti en exil en juillet 2016, en Afrique du Sud, puis aux États-Unis, il est rentré au pays le 1er février dernier, mais a été immédiatement interpellé à son arrivée à l'aéroport international de Harare, accusé d'incitation à la violence et de tentative de sabotage du gouvernement. Il était depuis en détention. Une arrestation condamnée par le gouvernement américain et des organisations de défense des droits humains pour Muleya Mwananyanda, directrice adjointe d'Amnesty International pour l'Afrique australe, il n'y a pas lieu de célébrer car il ne s'agit que d'une libération sous caution.
Le pasteur Evan Mawarire est l'objet d'une persécution politique par les tribunaux pour avoir exercé sa liberté d'expression. Cette persécution incessante a un effet dissuasif sur l'activisme pacifique au Zimbabwe. La libération du pasteur Evan Mawarire sous caution ne suffit pas. L'État ne peut pas continuer à le harceler et l'intimider simplement parce qu'il défend les droits humains. Les actions de l'État vont à l'encontre des principes de justice et sont la preuve que ceux qui osent tenir le gouvernement comptable sont systématiquement pris pour cible.
Début 2016, le pasteur Mwararire avait lancé une vaste campagne de protestation baptisée « This Flag » ou « Ce drapeau » contre le président Robert Mugabe. Dans une vidéo devenue rapidement virale sur Internet, il était apparu avec le drapeau du Zimbabwe pour dénoncer la corruption du régime et les conditions de vie difficiles de la population. Son action avait initié une vague de grèves et de manifestations. Le militant doit comparaître devant la justice le 17 février prochain.
Au Niger, ce 9 février a été la date anniversaire de la mort de trois étudiants abattus en 1990 par les forces de l'ordre lors d'une manifestation pacifique. Depuis, chaque année, les étudiants commémorent cette journée en réclamant de meilleures conditions de vie et d'études, mais aussi et surtout que justice et lumière soient faites sur ces événements. De Niamey les détails avec notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
Le vendredi 9 février 1990, Zakaria Abdraman, leader estudiantin de l'époque, se souvient comme si c'était hier.
J'étais de la partie et le jour-là, c'est pour défendre notre plateforme revendicative. Alors on était sortis le 9 février un matin pour franchir le pont et rentrer en ville pour être en contact avec l'opinion nationale. Et c'est une fois arrivé sur le pont qu'on s'était confronté aux forces de l'ordre. Et à notre grande surprise, c'était des armes réelles qu'ils avaient décidé d'utiliser contre nous. Alors il fallait battre en retraite. On était obligés de retourner, de rebrousser chemin. Et malgré ça, ils ont continué de tirer. En fait, c'était des rafales. C'était la débandade. Il y avait qui tombait, qui gisait dans le sang. Et il y a eu comme conséquence trois morts, plusieurs blessés graves et certains sont aujourd'hui handicapés à vie.
27 ans après, les principales exigences des scolaires à travers leurs structures sont lumière et justice. Ousseini Sambo, secrétaire général du comité directeur de l'Union des scolaires nigériens.
Nous continuons à réclamer justice car dans certains de ceux-là, nos dossiers n'ont pas évolué. On s'est dit qu'aujourd'hui, qu'il est temps, parce que tous ceux qui dirigent aujourd'hui les instances judiciaires sont sortis de notre organisation et même le président de la République était un ancien cadre de notre organisation. Donc nous nous sommes dit qu'il est temps de rendre justice au peuple nigérien pour que l'humeur puisse être faite, pour que les âmes des disparus puissent reposer en paix. Quand nous allons continuer à faire notre deuil jusqu'au jour où nous puissions savoir qui est qui et qui a donné l'instruction pour faire cette barbarie.
En attendant donc cette lumière et cette justice, les Nigériens savourent le principal fruit de ces événements tragiques, la démocratie. Abdraman Zakaria.
Incontestablement et indéniablement, le 9 février 90 a été le point de départ, le déclic de toute l'élite démocratique. Et les syndicats étaient rentrés dans la marche et tout le peuple nigérien. Et finalement, on a pu arracher le multipartisme intégral, les associations, la liberté de la presse et d'autres libertés publiques. Tout ce processus a culminé pour nous conduire à la conférence nationale souveraine. Et la conférence nationale souveraine aussi a été pédagogique et ça a donné naissance à ce que nous savons aujourd'hui, en fait, la société démocratique au Niger.
Abdulrazak Idrissa, à Niamey, pour VOA Afrique.
Au Congo-Brazzaville, le train du CFCO ne circule plus à cause des incidents dans le département du Poule. Des rails et un pont ont été dynamités dans la région de Mindouli. Les usagers se plaignent de l'absence du train, tandis que les agents du chemin de fer n'ont plus été payés depuis. De Brazzaville, le reportage de notre correspondant Nguela Ngoussou.
C'est depuis le mois de novembre de l'année dernière que le train ne siffle que pour vérifier la voie et pour quelques travaux. Sinon, aucun passager, aucune marchandise n'a été transporté entre Pointe-Noire et Brazzaville durant cette période. Les usagers et les riverains du chemin de fer se plaignent.
Les trains s'arrêtaient ici constamment, donc c'est difficile même, voire impossible que vous passiez toute une journée sans qu'il y ait la présence d'un train lourd. Et bon, c'est aberrant. Et même là, il y a des gens qui avaient même l'habitude de venir prendre le train ici, que ce soit le train Airpool, communément appelé par le peuple. C'est le chaos total.
Ici au PK, le marché coûte moins cher. Quand le train venait, ça permettait que nos parents qui sont à l'intérieur puissent amener de la marchandise, amener tout ce qui est agricole. Vraiment, ça nous permettait de pouvoir vivre. Parce que le manioc coûte moins cher, les arachides, l'haricot, les trucs comme ça, c'était facile pour faire le marché. Il y a même du makoala qui venait de Pointe-Noire par les trains. Ça coûte moins cher avec des petits commerçants. Ça nous aide. Mais aujourd'hui, tout est devenu difficile au PK pour faire même le marché. C'est parce que le train ne fonctionne pas. Donc là, vraiment, on souffre.
En fait, les rails et un pont ont été dynamités dans le Poule, empêchant au train de circuler. Ces actes de sabotage sont l'œuvre des ninjas, milices du pasteur Ntoumi, selon les autorités. Un cheminot dénonce.
Parce que les habitants du Poule se ressourcent plus dans le chemin de fer. Ils dépendent vraiment du chemin de fer que la voie carrossable. Parce que la voie carrossable, d'abord le billet est cher, la marchandise pour transporter est chère. Par contre, au chemin de fer, les taxes sont moins chères, le billet est moins cher. Et c'est étonnant. Malgré qu'ils dépendent du chemin de fer, mais ils détruisent encore le chemin de fer. C'est regrettable.
Jonas Mampouya, un cadre du CFCO, la compagnie ferroviaire du Congo, appelle à la reprise du train.
On n'a pas d'autres ressources. Moi, cheminot, la ressource, c'est de travailler et avoir mon salaire. Maintenant, je végète. Mais il faut que le chemin de fer reprenne son activité et encore s'améliore, surtout la voie.
Pour l'heure, aucune négociation avec les ninjas n'est à l'ordre du jour. L'armée affirme d'ailleurs avoir désormais le contrôle de toute la situation, mais toujours que des locomotives pour les trains de travaux. Nguela Ngoussou, Brazzaville, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Votre santé, votre avenir vous donne rendez-vous samedi prochain pour une nouvelle édition. Une édition qui sera consacrée à la santé mentale.
Dans l'opinion, les troubles de santé mentale se résument à la folie, mais nous verrons que ces troubles peuvent être divers.
Pour en parler, nous sommes allés en République démocratique du Congo. Nous avons interrogé le docteur Sombo Ayane Marie-Thérèse. Elle fera les diagnostics et nous livrera des conseils pratiques.
Deux autres experts seront aussi du rendez-vous. Le docteur Dieudonné Ngalamounoumé du CNPP de Kinshasa nous parlera de la prise en charge des malades. Notre expert est le docteur Idelphonse Mouteba, directeur du Programme national de santé mentale en RDC.
Votre santé, votre avenir, diffusé tous les samedis à 8h30, temps universel, et rediffusé tous les dimanches et mercredis à la même heure.
Ne manquez pas le rendez-vous.
Tous les lundis soirs, la Voix de l'Amérique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, en direct à 19h, temps universel. Pour intervenir, c'est très simple. Laissez vos messages sur la page Facebook de Sporama ou par mail à fr@voanews.com. À très vite sur le terrain de la Voix de l'Amérique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.